Dans l'exercice de la méditation, quand nous travaillons avec la pleine conscience, nous travaillons aussi beaucoup avec la réflexion qui nous permet d'orienter l'exercice dans la bonne direction. Et au début, l'effort que nous faisons s'oriente beaucoup dans le sens de changer ce qui est. Et peu à peu, nous nous rendons compte que nous pouvons laisser être et que le changement se fait. Mais il y a une active participation conceptuelle, on pourrait dire de sagesse, à tout le processus pour que nous arrivions peu à peu à répondre à la vie avec un cœur ouvert, hein, une attention accueillante. Donc nous voyons l'expérience, nous lâchons ce que j'en pense pour la sentir, si possible physiquement, pour l'accepter. Et nous sentons très bien quand le feu émerge et quand le feu s'éteint. Et au début, nous voulons un résultat, nous voulons retrouver ce que nous avions. Nous ne voulons pas avoir ceci ou cela, ou nous voulons des expériences exceptionnelles. Nous nous fatiguons beaucoup, alors que nous pouvons parfaitement juste laisser être. Et la sagesse se développe. Et quand nous n'arrivons pas à laisser être, nous pouvons voir comment nous sommes liés aux étiquettes, à la comparaison, au jugement, à la hiérarchie, au regard de l'autre, des énergies qui sont un peu, quand je regarde jouer mes petits-enfants, je me dis, mais nous sommes vraiment de grands petits-enfants. Donc l'éveil qui est au cœur du travail est aussi au cœur de la souffrance. Et l'intérêt, ce qu'on appelle l'intérêt, qui est un des facteurs de l'éveil, peu à peu s'intéresse à une seule chose, c'est ma réponse. Qu'est-ce que j'en fais ? Je vous lis la parole de l'ombre, parce que je trouve qu'elle est extraordinaire, qui vient de Gou, je ne sais jamais si c'est Gougo ou Goudo. Puis maintenant je ne sais même plus lequel de Gougo. Bref, ne cours pas après la connaissance. La connaissance est toujours là où tu es. Donc c'est l'ombre qui parle. Désire-moi. Chaque fois que tu me désireras, je viendrai. J'obscurcirai tes contours. Je ferai de toi un homme inaperçu. Je protégerai ton travail, tes plaisirs, ton être. Je t'aiderai aussi à te tenir éveillé. La lumière endort la vigilance. Moi, l'ombre, je la ravive sans cesse. La lumière efface la profondeur. Moi, l'ombre, je suis sans fond. N'oublie pas, quand tu es en moi, la lumière, c'est toi. Chaque fois que tu le voudras, je te laverai de tes certitudes paresseuses et je t'apprendrai à dire encore, encore, encore. Et je t'entraînerai toujours plus loin dans les mystères de la vie. Quand l'ombre est là, la lumière, c'est toi. Quand je contemple l'expérience douloureuse à la lumière de la conscience, le travail se fait. Et avec la qualité d'investigation, je peux dire encore. Et c'est vrai que lorsque l'expérience est bonne, nous en profitons. Et Dieu merci qu'elle soit bonne de temps en temps, pour le moi quand même. nous en profitons, mais d'une certaine manière, intérieurement, les choses perdent leur vigilance. On peut sentir ça. Et dans le Vipassana, où nous voyons les choses telles qu'elles sont, nous nous rendons compte que le but n'est pas de supprimer les obstacles, mais d'ouvrir notre cœur à leur énergie, à ce qu'ils font dans le corps, de nous intéresser d'un côté et de l'autre. Et alors, lorsque nous faisons ça, nous avons certaines récompenses et nous apprenons des qualités de la conscience, ce qu'on appelle les facteurs de l'éveil, dont j'aimerais parler ce soir. Le Bouddha en a nommé 7, certains qu'on a déjà abordés, et que nous pouvons aussi reconnaître. Et quelquefois, ils sont là en même temps que les obstacles. Et le premier de ces facteurs, c'est la joie ou l'intérêt. On en a parlé, je crois, hier. Pourquoi est-ce que j'en parlais hier? À cause de cette qualité de la conscience où tout à coup nous pouvons tout voir. Oui, c'était avec le piti, avec la. Dans les états de concentration. Quand l'intérêt est développé puissamment, il est pur et nous voyons simplement les objets de conscience qui arrivent et qui partent. La joie pure. Mais l'intérêt pour l'exercice de la méditation, c'est l'intérêt pour l'ici et maintenant. C'est le respect de l'instant. C'est la confiance dans rien, c'est juste de l'intérêt, du soin. Qu'est-ce qui est là juste maintenant? Qu'est-ce qui est là pour vous juste maintenant? Il est là, ce corps, le silence, l'espace, les petites bougies sur les bords de fenêtres, tous ces yogis en train de méditer. Quand je reçois l'expérience avec cette qualité d'équanimité, d'objectivité et de bienveillance, il y a l'intérêt. Et cette qualité d'intérêt, elle se développe, elle se purifie, et j'apprends à garder de l'intérêt, même quand tout d'un coup, ce que je vois ou que j'entends ou que je ressens me plaît moins. Et ça arrive. Je garde cette qualité de l'intérêt. Et pourquoi est-ce que je la garde? Parce que je sais que la libération est à l'intérieur de la souffrance et pas à côté. Et d'une certaine manière, plus je peux dire encore à l'expérience douloureuse, plus la qualité de l'intérêt s'approfondit. Le deuxième de ces facteurs de l'éveil qu'on appelle l'énergie, c'est une énergie que je mets en place au début par l'effort, et la constance de présence est beaucoup plus importante qu'un effort massif pour quoi que ce soit. La constance de présence, ce rappel, est-ce que je suis là? Et puis maintenant, et puis maintenant, et puis maintenant. Ça développe une énergie spirituelle qui fait que, étant donné que je lâche le problème s'exprime toujours par le fait que je ne peux pas être là. Et que j'anticipe, ou que je regrette, ou que je juge, ou que je projette. Et c'est fatigant. D'avoir la pensée qui n'est pas au repos, c'est extrêmement fatigant. Donc notre énergie est limitée. Et en méditant, quelquefois, nous n'avons plus besoin de dormir. Ça arrive, des fois pendant de longues périodes. Surtout quand l'énergie est découverte, hein, quand il y a cette découverte de l'énergie. Et alors évidemment, on s'attache un peu, mais peu importe, on s'attache pas très longtemps. Le troisième aspect, c'est l'aspect de l'investigation. Ce que je vous disais tout à l'heure, cette pensée qui cherche comment être là, comment m'ouvrir, comment dire encore, qui se souvient des outils que j'ai pu employer, qui ont bien fonctionné, et puis de ceux que je pourrais éventuellement essayer. On pourrait dire que l'investigation, c'est du discernement, c'est un emploi de la pensée au service du travail méditatif. Pas de notre ambition spirituelle. C'est délicat de voir la différence entre comment être là, comment être bienveillante, comment obtenir. Mais bon, de nouveau, c'est important d'oser se tromper et d'oser vouloir à tout prix obtenir un état. C'est ok si vous avez l'impression que c'est ce que vous avez à faire. On le fait, hein, j'y vais, je veux à tout prix, et puis après je vois bien. La sagesse nous ramène toujours. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, trop de faire faux. L'investigation, si vous voulez la mettre pour sûr, à un niveau d'investigation, si vous prenez refuge, c'est bon. C'est vraiment la chose qui ancre la pensée dans mon intention la plus profonde. Je prends refuge dans le Bouddha, Dharma, Sangha, et puis après je fais ce que je veux faire, et puis ma foi, si j'ai un grand doute, ok, je prends refuge, et puis j'y vais. Je vous l'ai déjà dit, mais on peut le redire parce qu'il faut le faire. Je vous lis Eti Hilesum. Par rapport à l'investigation, parce que l'investigation, c'est justement le lâcher prise de cette espèce de sentiment de faute. C'est une pensée libre d'aider la personne à être et à employer le meilleur objet de conscience et à avoir la meilleure attitude possible et à faire son boulot tranquille et humblement. Et Thierry Lezoum qui dit « Il y a des moments où je pense, ma vie va complètement de travers, j'ai commis une faute quelque part. Mais cela n'est vrai que si l'on a en tête un modèle de vie particulier, en comparaison duquel la vie réelle, celle que l'on mène, paraît fautive. » J'ai un modèle. Et je ne suis pas assez, du coup. Et je ne peux pas prendre ma place. Tout à fait. Là, j'ai trouvé un très bon truc pour moi. Parce que souvent, je me dis, ah, mais franchement, t'es nul. Alors, souvent, je dis pas ce que je vous dis des fois après. Mais souvent, je me dis, t'es nul. Puis, hier, j'ai eu une illumination, l'illumination de l'illumination. Je me suis dit, mais attends, j'ai pas besoin de me dire que je suis nulle, j'ai qu'à me dire que je suis rien. Waouh ! Eh ben t'es rien, mais quel soulagement, j'ai pas besoin d'être quelque chose. Et quand on se dit t'es nul, ça veut dire que tu dois être autre chose. Mais t'es rien, mais c'est tellement bon. Alors je change nul par rien. Oh, il y en a un petit bout de fait encore. Eh bien, ben, vous voyez, je suis nulle, je l'ai laissé être dans le corps sérieusement, hein, parce que ces temps j'ai eu une attaque de nullité massive. Je l'ai vraiment laissé être, avec beaucoup de compassion, beaucoup de patience et tout et tout. Eh ben, j'ai eu cette illumination. Il n'y a plus besoin de dire je suis nulle, j'ai qu'à dire je suis rien. Et pour finir, en fait, quand je dis je suis rien et que ça veut dire que j'ai pas besoin d'être quelque chose, ça revient à dire je suis. Ça suffit de dire je suis. Et bien ça, c'est vraiment cette qualité d'investigation qui est à l'œuvre et qui implique l'émergence d'une petite goutte de sagesse. Au lieu de rester dans pourquoi je suis nulle, qu'est-ce qu'il faudrait que je sois mieux, comment il faudrait que voilà, voilà, puis de m'épuiser complètement. Bah, je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle. Puis au bout d'un moment, ça change. Ça marche. Le quatrième facteur, je l'ai dit dans ce sens, mais on peut les dire autrement, c'est ce qu'on appelle le calme. Et c'est important de reconnaître le calme quand il arrive et de le goûter, même si c'est un petit moment. Waouh ! Tout d'un coup, l'épuisement conceptuel s'arrête, le corps se pose et je commence à comprendre que le renoncement n'est pas une austérité, le renoncement est une plénitude. Et le calme vient beaucoup du lâcher prise, c'est pour ça qu'en retraite, l'obéissance, ce qu'on appelle l'obéissance à l'horaire, à l'exercice, essayer de le faire le plus souvent possible, ne pas toujours être lié à ce que je veux, c'est un immense repos. Moi je me souviens en retraite quand j'étais jeune, puis que j'arrivais dans ma chambre et puis que je me disais « Oh ça y est, je peux arrêter de décider tout ce que je dois faire toute la journée. » Fouf, c'est agréable, on a tout décidé pour moi. Ce que je vais manger, à quelle heure je dois me lever, où je dois aller marcher, presque tout. Alors je trouve très bien comment faire pour vouloir plein de choses. Mais le fait de lâcher la parole, l'acte créatif, je dirais, le corps qui est toujours en mouvement, ce renoncement-là, est une cause prioritaire du calme. Demandez-vous quand vous allez vite vous faire un thé avant d'aller marcher. C'est vraiment utile ? Peut-être pas. Et essayez de voir ce qui est plus agréable. Est-ce que c'est d'aller me faire un thé, puis après j'aurai quand même encore un autre désir. Le désir c'est sans fin. Ou bien, est-ce que c'est de m'abandonner à ce rythme, je fais juste ce qu'il m'a demandé de faire, je vais manger quand on me dit, quand la cloche sonne. C'est très, très agréable. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus reposant, on pourrait dire, que de toujours essayer d'assouvir un désir qui, de toute manière, recommence. La concentration, c'est ce dont on a parlé hier. On pourrait dire en tant que facteur de l'éveil, c'est une conséquence d'un travail intérieur et c'est ce qui fait que je commence à pouvoir jouer avec mon esprit. Je peux un peu décider que je veux aller que dans le silence et l'espace. Ou que dans mes pensées qui émergent, ou le son de ma voix, ou que dans le sens de la vue, ou que dans la respiration, j'ai le choix. Ou bien je peux faire métta, ou bien je peux prendre refuge, ou bien je peux rien faire, attendre ce qui vient. Un esprit concentré est par nature au repos. Et nous pouvons sentir peu à peu comment cette force de la conscience se développe en lien à la concentration. Et lorsque je fais ce qu'on appelle bare attention, l'attention pure, simplement que les choses émergent et passent, je développe la concentration. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6e facteur, c'est l'équanimité. On en a pas mal parlé. C'est une qualité de cœur, c'est une qualité de tendresse, de compassion, mais aussi d'appréciation, d'ouverture à la totalité, aux 10 000 joies et aux 10 000 peines. Et nous pouvons la travailler quand nous venons nous asseoir, en nous souvenant de quoi ? De quoi vous vous souvenez quand vous voulez travailler l'équanimité ? Quelqu'un se souvient de quelque chose quand tu veux faire ça ? Vous vous dites quoi ? Sois sans préférence. Sois sans préférence, c'est tellement plus simple. Et je vois venir la préférence. Et je suis sans préférence pour la préférence. Ça n'est pas un état qui est bien, l'équanimité. C'est une attitude ici et maintenant à répéter sans cesse. C'est autre chose. Nous avons toujours tendance à vouloir faire des qualités, quelque chose que je garde. Et quand je veux le garder, je le pervertis. Être sans préférence, c'est cet espace de réceptivité qui reçoit l'ombre et la lumière. Physiquement, intérieurement, extérieurement, psychologiquement. Et comme je vous disais hier, c'est ce qu'on appelle l'unification. Et c'est quelque chose qui est, je vous le dis, je crois que c'est Suchito qui dit « L'équanimité est si paisible, si tranquille que parfois on ne la voit pas. C'est simplement l'absence de désir et d'aversion. » C'est cet état qui est profondément réceptif, mais qui n'est pas tellement brillant, qui est simple, qui est... C'est de l'extraordinaire qui ressemble à l'ordinaire. C'est le meilleur. Lorsqu'il n'y a pas l'équanimité, eh bien, j'essaye d'être ce que je veux. J'essaye, nous essayons, nous passons notre temps à essayer. Pouf. J'arrête d'essayer. Et pour arrêter d'essayer, vous savez ce qu'il faut faire ? Vous faites quoi, vous, pour arrêter d'essayer ?
Lâcher.
Lâcher quoi ?
Volonté. Toute volonté.
Quelqu'un fait autre chose ? C'est vrai, on peut lâcher toute volonté. Il y a quelque chose de plus efficace. Lâcher toute volonté, ça joue un moment. Mais après, c'est difficile. Parce que je peux lâcher un moment, et puis après ça revient. Et en général, c'est très efficace aussi de simplement voir quand j'essaye. Et reconnaître. Ah ben, juste maintenant, je suis en train d'essayer. J'essaye d'être là. Il y a de l'agitation, j'essaye d'être là. Je vous assure que c'est plus efficace de dire « Coucou, petite agitation, sois là pleinement. » C'est beaucoup plus efficace. Essayez. Et le dernier des facteurs de l'éveil, c'est la pleine conscience. La pleine conscience, on pourrait dire que c'est le cœur, le centre, le chef. Est-ce que je suis là? Et au début, nous ne nous rendons pas compte qu'elle n'est rien, c'est-à-dire qu'elle n'est qu'espace de réceptivité. Au début, nous avons l'impression qu'elle est des fois très alerte, ou des fois plutôt somnolente, ou des fois... Mais la conscience en elle-même n'est rien, ou est très proche du rien. C'est vraiment une capacité de recevoir. Et elle se reçoit elle-même. Quand je dis « est-ce que je suis là ?», j'emploie la conscience pour savoir que je suis consciente. Je vous propose 5 manières de faire pour apprendre à être. Il y a le lâcher prise, je lâche, aucun effort, je suis juste là, ou le laisser être, qui est au fond un non-effort. Et ça demande de ne pas se complaire dans l'histoire. Et la meilleure façon de ne pas se complaire dans l'histoire, c'est apprendre à reconnaître que quand il y a une émotion perturbatrice et qu'elle est forte, il y a forcément la confusion. La confusion mentale accompagne par définition l'émotion perturbatrice. Et en général, comme je ne le sais pas suffisamment, au lieu d'attendre, je saisis quand même le concept pour essayer de faire le clair, et c'est très douloureux. Alors que si je peux simplement reconnaître que je suis à l'étroit, qu'il y a de la peur, ou de la colère, ou de la frustration, ou du doute, ou de l'aversion, désir, et que du coup ça engendre une certaine confusion mentale, je peux attendre, parce que la sagesse me dit « ne fais rien ». Et bien sûr, ça relâche les états non bénéfiques, par choix délibéré, parce que nous avons vu, parce que nous avons vu. C'est ça, couper la souffrance à la racine. Il y a une chose que nous pouvons faire, c'est aller à la rencontre pour transformer l'énergie négative. Par exemple, si j'ai une énergie de rage, je peux marcher très vite en tapant par terre avec les pieds, consciemment. Je me souviens, dans une retraite, j'avais des très très fortes attaques d'ennui, puis c'était une retraite d'un mois, et je répétais sans arrêt « Oh, ce qu'on s'emmerde ici !» Et ça me faisait du bien. Je faisais mes 25 pas aller-retour sans arrêt avec mon petit chant. C'était bon. Vous pouvez, nous pouvons... Hein ? Je ne l'ai pas fait pendant un mois. Mais je le reprenais de temps en temps. Très agréable. C'est vraiment très agréable. Alors que si je lutte contre l'ennui, c'est l'agonie. Nous pouvons pouvons aussi mettre l'énergie de côté, c'est-à-dire s'occuper d'autre chose. Et ça, c'est intéressant, ce chemin du milieu, parce qu'on entend quelqu'un dire « oui, il faut dire encore, encore à l'énergie de l'ombre ». Alors, on va dire encore, encore, et puis on va garder cette énergie de l'ombre. Puis après, on vient en entretien, puis on dit « mais je regarde ma tristesse, elle ne part pas ». Évidemment, si je la regarde avec l'envie qu'elle parte, elle ne va pas partir. Et l'envie qu'elle parte, elle est trois quarts du temps inconsciente. Donc, vous faites le travail tranquillement. Je regarde ma tristesse un moment, puis après, si vous voyez que ça ne marche pas, ça engendre un peu du doute, lâchez, et vous allez ailleurs. Je mets l'attention ailleurs. L'espace, le silence, les sons, un endroit du corps. Je peux même quelquefois me pinceter ou bien me faire un tout petit peu de douine que personne ne voit rien. Pour simplement focaliser l'attention ailleurs et attendre pour reprendre l'exercice que le moment soit peut-être mieux choisi. Sentez-vous libre. Le quatrième aspect que je voudrais évoquer, c'est le encore, encore. Simplement oser exposer les énergies à la lumière. C'est ce que vous avez beaucoup fait, j'imagine. Et puis le dernier, c'est l'amplification. Ça aussi, je vous l'ai souvent proposé. Plutôt que de vous tendre quand vous sentez quelque chose qui n'est pas bénéfique, amplifiez-le. Et en retraite, ce qui est intéressant, c'est que souvent, des énergies qui émergent dans la vie quotidienne et auxquelles nous croyons parce qu'elles font plus ou moins sens, en retraite, souvent, elles n'ont aucun sens. Quand je juge l'autre parce qu'il a pris 4 tartines, ça peut nous faire. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire? Je me souviens, dans une retraite, je faisais une petite balade toujours. Une grande balade autour d'un lac. Et puis, à 2h30, c'était la méditation, mais on n'était pas du tout obligé d'y être. Et puis, un coup, je faisais ma petite balade. Puis, je regarde l'heure, 2h15. Oh mince, je vais être en retard. Je voyais bien que c'était débile, que personne n'allait me dire que j'étais en retard, que j'avais pas besoin d'y être. Oh mince, tu vas être en retard. Et je voyais en même temps ce qu'il y avait de débile. Mais ce sens du devoir était tellement puissant, c'était un réel problème et un réel échec si je n'étais pas là à l'heure. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça quand ça arrive? Puis je me suis dit, eh ben, tu vas jouer. Alors j'ai pris mes jambes à mon cou comme si vraiment je risquais ma vie pour arriver à l'heure, en pleine conscience. Je courais à toute vitesse. Là, je suis juste arrivée à l'heure. Et c'était très chouette parce que, au lieu de me dire mais arrête, t'es dans le sens du devoir, c'est stupide, ce sens du devoir, vraiment tu es lâche ce sens du devoir. Non, j'ai joué le sens du devoir et c'était un excellent exercice. Il a bien lâché après. Nous avons comme ça différents moyens pour que la pleine conscience reste dans une sorte de jeu. Ne pas nous prendre trop au sérieux. Je vais vous lire Annick de Souzenel. C'est aussi une parole que j'aime tellement reprendre, surtout qu'Annick de Souzenel a été quelqu'un d'important pour moi. C'est une chrétienne orthodoxe qui a des lettres hébraïques, c'est une tête, et qui a mis tout ça tellement au service d'un christianisme vivant et efficace. Ces bouquins sont très complexes, Mais ses enseignements sont merveilleux. Je crois qu'elle a maintenant 95 ans, puis elle enseigne encore, sa Ferrer. Et elle dit « La paix n'est pas le contraire de la guerre. Les artisans de paix sont ceux qui entrent en conflit non pas contre, mais avec leur adversaire intérieur, avec l'inaccompli de leur grande profondeur. La recherche de notre identité est la vraie guerre. Qui suis-je ? Il n'y a pas de repos dans cette guerre-là. C'est bon d'être dans la lumière, mais nous n'avons pas à nous y installer. La paix, c'est accepter d'entrer dans ce non-répit, dans ce travail, où je vais toujours plus près de ma source. La paix, c'est une guerre sainte avec soi-même. » Et c'est important de voir que lorsque l'esprit n'est pas en conflit, c'est bon, d'une certaine manière j'expérimente le fruit. Et lorsque l'esprit se met en conflit, pour Dieu c'est quoi? C'est bon, je suis en chemin. Ni l'un ni l'autre ne sont la libération. La libération, c'est de savoir que la vie continue, que la danse est toujours là. Et avec les facteurs de l'éveil, ce qui est bon, c'est que nous pouvons les conscientiser. C'est important de les conscientiser. Juste maintenant, vous avez lequel ? Juste maintenant. La pleine conscience, elle est là ? Est-ce que votre corps, vous le sentez ? Oui ou non ?
Ben, elle est là.
Bon, première chose. Est-ce que le calme est là ? Ok. Est-ce que vous, là, c'est une question délicate pour moi. Est-ce que vous avez de l'intérêt pour ce que je vous partage? Est-ce que l'intérêt est là? Mais ça peut être l'intérêt pour ce qui éveille en vous, bien sûr, hein, avant tout. Je sais bien que je ne suis pas si intéressante que ça. Donc, chaque fois que quelque chose émerge, ah ouais, il y a l'intérêt, intérieur, extérieur. L'intérêt, c'est de la joie, c'est une forme de ah ouais, ouais. Est-ce que il y a l'équanimité? Vous êtes avec préférence ou sans préférence? Juste maintenant. Quelques préférences. Est-ce que vous le voyez avec bonté? Pas tout à fait. Bon, ben c'est pas tout à fait l'équanimité, mais un petit peu. Est-ce que vous avez l'investigation? L'investigation, si vous prenez des notes, c'est que vous êtes dans l'investigation, c'est sûr. C'est ce qui fait que l'explicite au niveau conceptuel, en lien à la sagesse, se manifeste. Et la concentration, je ne pense pas que vous l'ayez juste maintenant. C'est quelque chose qui demande des conditions quand même particulières pour faire durer l'énergie. Elle est là en potentiel, mais au niveau de l'expression même, la concentration demande le silence. Et la pleine conscience, c'est le point de départ. Si votre corps est là, c'est que vous êtes en pleine conscience. Si votre corps est là et que vous le savez. Et que vous savez que vous le savez, bien sûr. Mais c'est aussi le départ. Le point d'arrivée, pardon. C'est aussi le point d'arrivée. Parce que c'est ce rien qui sait simplement recevoir tout. Je vais finir avec une petite parole. Il nous faut risquer la joie. Nous pouvons faire sans le plaisir, mais pas sans la joie. Nous devons avoir l'obstination d'accepter notre lumière dans la fournaise torride du monde. De faire de l'injustice la seule mesure de notre attention, c'est prier le diable. Si l'intention du Seigneur nous abandonne momentanément, à nous de remercier, car un jour cela s'arrête. Nous devons admettre qu'il y a la musique malgré tout le reste. Si vous êtes attentif à la pleine conscience, elle peut rester toujours et elle est source de joie. Je vous propose de prendre quelques minutes en silence.